Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on part dans un New York transformé, vraiment méconnaissable.
Ah oui, loin de l'image habituelle. Complètement. Imaginez, Central Park, c'est devenu un lieu de pêche, avec des potagers.
Pour survivre.
La survie, oui.
Et Manhattan, c'est plus la ville qu'on connaît. Des sortes de villages, comme ça, entre les gratte-ciel éteints.
Et des zones entières carrément interdites, c'est ça. Brooklyn, le Queens.
Exactement. Interdites parce que dangereusement contaminées. Suite à une catastrophe. On ne sait pas tout, mais apparemment un crash d'avion.
Avec une bombe sale au plutonium. C'est le contexte, disons.
Voilà. Et nos sources, elles nous font suivre deux personnages. Un frère et une sœur. Peter et Dorothée.
D'accord.
Peter, lui, il vit de la pêche. Dans le réservoir de Central Park. C'est très pragmatique. Les quotas, les contrôles de radiation.
Avec un compteur Geiger, j'imagine.
Oui, tout le temps. Et sa sœur, Dorothy, elle est artiste à Chelsea.
Ah, c'est le contraste.
Oui. Elle est même chef de file d'une école, La Poésie des Ruines. Elle peint la beauté étrange de cette ville morte.
La beauté dans les ruines, c'est un thème fort.
Elle peint même les Twin Towers, qui dans ses œuvres sont toujours là, intactes.
Intéressant. Et au quotidien, comment ça se passe? L'argent, tout ça
Mais l'argent classique, il a moins de sens. On utilise des bons. Et pour le reste, on se sert dans les magasins abandonnés. C'est une autre économie.
Absolument. Et c'est là, je trouve, que ça devient fascinant, cette juxtaposition.
Entre quoi et quoi, précisément?
Entre le besoin brut de survivre, tu parlais du poisson, de la radioactivité, et cette démarche artistique de Dorothy.
Oui, c'est vrai.
Ce n'est pas juste anecdotique, hein. C'est une façon de montrer la résilience, cette volonté de trouver du sens ou de la beauté même quand tout s'écroule.
L'art comme une forme de résistance.
Exactement, une résistance face au chaos, oui.
Et cette résistance, justement, elle pousse Dorothy à faire quelque chose d'assez risqué.
Ah oui.
Quoi donc?
Elle entreprend une expédition, retournée dans sa maison d'enfance.
Oui, c'est dans la zone interdite, ça?
Oui, en plein Queens, à Forest Hills. Donc, elle s'équipe, combinaison de protection, une serpe pour se frayer un chemin, dans la jungle urbaine, littéralement.
C'est ça. Elle retrouve là-bas un arbre, planté à sa naissance. Un symbole fort. Mais surtout, elle trouve autre chose.
Quoi donc?
Dans la bibliothèque de la maison, en ruine, elle découvre une vieille boîte métallique.
Ah!
Et là, on bascule, complètement. Parce que dans cette boîte, il y a le cœur du mystère.
Des lettres.
Oui, des lettres des années 1920, écrites par leur arrière-grand-mère française, Anne Lefebvre.
Une Française, d'accord. Et qu'est-ce qu'elles ont de si spécial, ces lettres?
Elles contiennent des anomalies.
Troublantes.
Des anomalies temporelles.
Factuelles.
Les deux, en fait. Par exemple, une lettre décrit New York. La description est frappante, elle ressemble énormément à un passage de Céline.
De Voyage au bout de la nuit?
Oui, sauf que la lettre, elle est datée de 10 ans avant la publication du livre de Céline.
10 ans avant? Attendez, comment c'est possible? Ça voudrait dire que...
On ne sait pas. Comme si Céline avait lu cette lettre, ou que l'histoire littéraire était différente, c'est très étrange.
C'est pour le moins déconcertant, oui. Et ce n'est pas tout, j'imagine.
Non, ce n'est pas tout. Il y a une autre lettre, datée du 15 avril 1912.
15 avril 1912, le Titanic.
Exactement. La lettre décrit l'arrivée imminente et joyeuse d'Anne à New York, à bord du Titanic.
Mais le navire a coulé cette nuit-là. Tout le monde sait ça.
Justement. Et Dorothy fait des recherches. Les registres officiels sont clairs. Anne Lefebvre et ses parents sont morts dans le naufrage. Pourtant, la lettre existe. Elle l'a trouvée.
Elle l'a trouvée, là, dans les ruines de ce New York dévasté. Ça défie toute logique.
Donc, pour résumer, on a ce monde post-catastrophe.
Oui.
Avec l'art de Dorothy, la poésie des ruines.
Et au milieu de ces ruines, des lettres qui contredisent l'histoire officielle.
Carrément. Sans oublier, les sources mentionnent aussi des disparitions dans la famille. La grand-mère Rosa, le père Arthur. Ça ajoute au mystère.
Tout à fait. Et la question que ça soulève, c'est qu'est-ce que ça signifie? Erreur, fraude historique complexe, comme le pense Peter.
C'est une possibilité.
Ou bien, est-ce que ces documents, trouvés dans ce lieu figé par la catastrophe, pourraient être autre chose? L'écho d'une autre réalité?
Une réalité alternative?
Où le Titanic serait arrivé, où Céline se serait inspirée d'elle?
Pourquoi pas?
La juxtaposition de la catastrophe nucléaire et de cette énigme historique ancienne, elle crée une résonance particulière.
Ça interroge la fiabilité de nos récits, en fait.
Exactement. Ces lettres fonctionnent un peu comme un miroir. Découvertes dans un présent en ruine, elles suggèrent que le passé lui-même pourrait être moins stable, moins solide qu'on le pense.
Le cœur du problème, c'est peut-être la nature même de la preuve, de la mémoire. Qu'est-ce que se passe quand une trace matérielle, une lettre, raconte une histoire impossible?
Précisément. Est-ce que la réalité historique est unique, immuable, ou est-ce qu'elle pourrait avoir des embranchements, des versions alternatives, dont des fragments pourraient ressurgir?
Surtout dans un monde lui-même brisé par une catastrophe.
Voilà. C'est une exploration assez vertigineuse de la vérité historique face au chaos, finalement.
Et ça nous laisse avec cette réflexion. Si les ruines matérielles d'un futur peuvent cacher des échos d'un passé qui n'aurait pas dû être, sur quoi repose notre propre histoire? Ces lettres, au fond, ce n'est peut-être pas juste une énigme pour l'histoire. C'est peut-être une invitation à penser que même le passé a ses fantômes, ces chemins non empruntés qui hantent notre présent.
De quoi réfléchir, en effet.
Ça laisse songeur, oui. Bien, après cette exploration,